Ici Véronique Bellemare-Brière, présidente fondatrice de l'Institut Somna pour la gestion naturelle du sommeil, premier institut de somnopédagogie et de somnothérapie holistique au monde. Il me fait plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui à SOS Sommeil, ne pas laisser pleurer au coucher. Ça veut dire quoi au juste? Ne pas laisser pleurer. Qu'est-ce que ça veut dire au juste en ce qui a trait au sommeil? Eh bien, j'ai tenu vraiment à ramener cette question-là dans le podcast parce que il y a vraiment un gros malentendu qui s'est créé, notamment en France, suite aux déclarations, entre autres, de la pédiatre Catherine Guéguen, qui était tout à fait légitime, qui voulait justement enseigner aux gens que les méthodes comme la méthode 5-10-15 notamment n'étaient pas adaptées au développement de l'enfant parce qu'un enfant, pour bien se développer, on doit bien répondre à ses besoins. Alors, elle a fait une sortie quand même très remarquée à ce sujet-là, qui était nécessaire, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont très mal compris ce qu'elle entendait par cette sortie. En fait, quand on dit qu'il ne faut pas laisser pleurer, c'est, en fait, on parle de laisser pleurer au moment de l'endormissement, c'est vraiment directement à cette méthode 5-10-15 que l'on fait référence. Parce que cette méthode-là préconisait de laisser pleurer sans intervenir, sans le réconforter, son bébé pendant 5 minutes, par la suite pendant 10 minutes, par la suite pendant 15 minutes, pour qu'il se tanne et finisse en désespoir de cause par s'endormir de force en quelque sorte, par dépit, parce qu'il aurait compris qu'on ne viendrait jamais répondre à ses besoins, le réconforter ou quoi que ce soit. Donc, évidemment, Catherine Guéguen a très bien fait de faire cette sortie pour que les gens comprennent que, bon, on n'était plus du tout dans ce mode de pensée-là qui a pris, en fait, qui a dominé pendant quelques années, où les pédiatres et l'ensemble des personnes de la communauté médicale préconisaient vraiment cette méthode. Il y a eu des changements dans les dernières années, heureusement, parce qu'effectivement, si on laisse un enfant pleurer tout seul dans son lit, sans répondre à ses besoins, sans venir le réconforter, sans venir le voir, oui, ça va avoir éventuellement peut-être des conséquences sur son développement, peut-être sur son cerveau aussi, parce que l'enfant, ce qu'il comprend à ce moment-là, c'est « j'ai beau demander, j'ai beau pleurer pour exprimer mes besoins, il n'y a personne qui vient me réconforter, il n'y a personne qui vient me voir, donc je suis pas important pour la tribu dans laquelle j'ai atterri, et oui, ça peut entraver son développement. » Ceci étant dit, il y a des gens qui ont compris par cette déclaration de Catherine Guéguen qu'il ne fallait jamais qu'un enfant pleure. Et là, évidemment, c'est tout un malentendu, parce que ce qu'elle voulait dire dans sa déclaration, ou en tout cas que les professionnels ont compris, c'est qu'effectivement, il ne fallait pas laisser pleurer un enfant tout seul dans son lit sans répondre à ses besoins. Parce que le rôle du parent, c'est de décoder le plus rapidement possible les besoins de son enfant pour y répondre le plus efficacement possible dans le plus court délai de temps possible. Et qu'est-ce qui se passe quand on y arrive? Eh bien, on va engendrer graduellement la création d'une relation de confiance entre l'enfant et le parent, mais aussi l'enfant lui-même qui va se sentir de plus en plus compétent et qui va être fier de lui parce qu'il va réaliser qu'il est capable d'émettre des demandes ou en tout cas d'exprimer ses besoins et qu'on y répond, on le comprend, donc il se sent de plus en plus compétent, ça lui permet de développer son estime de lui aussi. Donc effectivement, cette phase-là est très importante. Et c'est le rôle du parent d'y répondre. Mais là, il y a certains parents qui ont compris qu'effectivement, dès qu'un enfant pleurait, c'était dommageable pour son développement, c'était dommageable pour son cerveau. Et là, vraiment, il faut vraiment remettre les pendules à l'heure. On a besoin des professionnels qui sont les plus intentionnés, les mieux intentionnés du monde, les plus bienveillants du monde, que les parents, finalement, se reconnectent à la nature et à leur instinct parental pour pouvoir bien accompagner leurs enfants vers le sommeil. Et dans la nature a voulu que les bébés, pour s'exprimer, ne maîtrisant pas encore les mots et la grammaire, aient ce mode d'expression qui est celui des pleurs. Alors évidemment, si on se met en tête que tout pleur est mauvais et qu'on ne veut jamais que son enfant pleure, qu'on devance ses besoins sans arrêt pour être sûr qu'il ne pleure jamais, on va au contraire, on va entraver son développement de cette façon-là. Parce qu'on vient de le dire, c'est un mode d'expression que de pleurer. Et la relation de confiance se développe avec le parent au fur et à mesure que le donneur de soins, qui est généralement le parent, va venir décoder les besoins de son enfant et y répondre le plus rapidement, le plus efficacement possible. Si on empêche tout ce processus-là de survenir, eh bien, ça fonctionne plus. L'enfant ne peut pas se développer normalement, il peut pas gagner de confiance en lui non plus. Donc, c'est super, super important de remettre les pendules à l'heure parce que c'est quelque chose qu'on entend terriblement souvent. Des gens qui vont nous dire « Ah, moi, je veux surtout pas que mon enfant pleure, c'est pas dans mes valeurs. » On dit « Ah, ok. » Ce qui veut dire que quand ton enfant va commencer à parler, tu vas l'empêcher de parler parce que c'est pas dans tes valeurs qu'il parle. Ben là, les parents comprennent pas pourquoi on leur pose cette question-là, mais c'est la même chose, c'est son mode de communication. Il n'a pas encore appris les mots, la grammaire, donc il pleure. Quand il pleure, par contre, on peut comprendre ce qu'il cherche à nous dire. Pareil, comme si on essayait de comprendre ses mots quand il commence à balbutier. Alors évidemment, dans certains cas, il pleure parce que sa couche est mouillée, parce que il a mal quelque part, parce qu'il a besoin de réconfort, parce que, peu importe, il a faim. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un bébé peut pleurer, mais le rôle du parent, c'est d'essayer de commencer à décoder ses expressions, ses pleurs, pour pouvoir voir quel pourrait être le besoin qu'il tente de nous exprimer et y répondre le plus rapidement possible. Et là, ben j'ajoute que les pleurs peuvent aussi être liés à des besoins auxquels les parents ne pensent pas souvent, c'est-à-dire besoin de dormir parce qu'il est épuisé, et il pleure non pas parce qu'il a faim, mais parce qu'il a besoin de dormir, ou encore besoin qu'on le laisse tranquille. Parfois, c'est ça aussi. Et un peu comme nous, lorsqu'on est saturé finalement d'informations, ou il y a beaucoup de bruit autour de nous, on vient très fatigué, puis on a besoin de se retrouver seul. Donc parfois, ça peut être ça aussi qui communique le bébé. Alors si on se met à paniquer à chaque fois qu'il pleure, bien, on ne se met pas en mode décodage de ses besoins, et on ne peut pas y répondre convenablement, alors que c'est ça le rôle du parent. Donc, vraiment, là, il faut tout démêler, là, tout ce qui est sorti dans les réseaux sociaux, tout ça. Il y a des gens qui ont soit mal interprété ou volontairement dévié un peu ce qui s'était dit. Donc, ce qu'elle disait à l'origine, Madame Guéguen, c'est un peu ce que tous les spécialistes en accompagnement de l'enfance vont vous dire, en tout cas ceux qui sont bienveillants et qui sont conscients des phases de développement de l'enfant, c'est-à-dire qu'effectivement, pour qu'un enfant se construise bien, pour que son cerveau se développe bien, il doit sentir que son parent est là, qu'il le comprend et qu'il l'appuie aussi dans son développement. Donc, que le parent, finalement, va être disponible pour répondre à ses besoins le plus rapidement, le plus efficacement possible, lorsqu'il les manifeste. Et là, à partir de ce moment-là, on l'a dit, il va se sentir de plus en plus compétent, donc il va gagner de plus en plus en confiance en lui, ce qui ne serait pas possible si le parent ne lui donnait pas l'occasion de s'exprimer. Donc, ça, c'est la même chose avec les pleurs et avec les mots quand l'enfant va être un peu plus vieux. Si on parle toujours à la place de l'enfant sans lui laisser exprimer ce qu'il veut dire, mais éventuellement, il ne parlera plus, l'enfant. Et il n'aura pas, justement, traversé correctement cette phase de développement qui l'amenait, justement, à avoir confiance en lui, en sa parole, au fait qu'il est capable de communiquer, d'entrer en interaction avec les autres. Alors, ça, c'est fondamental. L'autre chose, c'est que par rapport au sommeil, lorsqu'on parle des pleurs, eh bien, si on dit une méthode sans laisser pleurer, En partant, si on dit une méthode, sauvez-vous, parce que il n'y a aucune façon de faire qui va s'adapter à l'ensemble des enfants. Donc, il faut au contraire nous apprendre à nous mouler à l'enfant qu'on accompagne pour bien répondre à ses besoins à lui. Donc, dès qu'on parle de méthode, c'est bon, une sorte de protocole prédéterminé qu'on applique à tous les enfants et ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas correct envers l'enfant qui doit développer correctement ses compétences selon son propre rythme à lui, mais aussi c'est à la limite malhonnête de parler de ça parce que, je l'ai souvent dit, hein, une méthode c'est un peu comme si on essayait de faire rentrer tous les enfants du monde dans la chaussure de Cendrillon alors qu'il y a une seule Cendrillon. Évidemment, si on a la chance d'avoir la Cendrillon en question, ça va lui faire comme un gant, mais si ce n'est pas le cas, ça pourrait faire mal. Alors évidemment, ça c'est quelque chose que je répète inlassablement, qui est vraiment fondamental dès que vous voyez des gens qui parlent de méthode, de miracle, de magie. On s'enlève de là, ça c'est pas sérieux du tout par rapport au sommeil. Maintenant, lorsqu'on parle d'accompagnement individualisé, donc pas d'une méthode, mais de quelqu'un qui a des compétences et qui est en mesure de décoder les sources des difficultés de sommeil et de proposer les solutions adaptées en fonction des différentes sources. Lorsqu'on parle de ça, eh bien, là, on va comprendre davantage la question de laisser pleurer ou pas laisser pleurer. C'est-à-dire que, évidemment, qu'on voudra pas que l'enfant soit tout seul dans sa chambre, comme le préconisait la méthode 5-10-15, justement, qui était une méthode, nous aller dans une autre pièce, puis calculer sur notre montre, refouler l'instinct parental, être en train de se tordre d'angoisse dans le corridor, puis avoir tellement hâte de retourner voir son enfant parce qu'on se sent coupable. Là, ça, c'est vraiment très, très anti-nature et contre-instinctif. Et ce n'est pas bénéfique, on l'a vu. Mais, ceci étant dit, si l'enfant pleure et que peut-être c'est son besoin, justement, de décharger son surcroît de stress, parce que oui, on peut être à bout parce qu'on a été trop stressé dans la journée, peut-être qu'on est juste fatigué puis qu'on dit « laisse-moi tranquille, laisse-moi dormir », le rôle du parent, c'est simplement de l'accompagner. Donc, parfois, c'est d'être là, puis effectivement, de poser sa main sur le ventre, le sternum de l'enfant pour l'apaiser. Parfois, oui, on va peut-être le bercer un peu, le prendre dans nos bras. La seule chose que l'on dit par rapport au fait de ne pas laisser pleurer, c'est de justement pas laisser l'enfant tout seul dans sa chambre sans revenir le réconforter et l'abandonner à ses pleurs. Donc ça, on fait pas ça. Ça, c'est hors de question. De toute façon, c'est contre-instinctif. Il n'y a pas beaucoup de parents qui peuvent faire la méthode 5-10-15 sans se tordre de remords dans le corridor. Alors, c'est pas quelque chose jamais qu'on recommande. C'est pas naturel du tout d'agir de cette façon-là. Maintenant, si l'enfant pleure parce qu'il a le droit de pleurer, on peut pas l'empêcher de pleurer. Donc, quand les gens disent « Ah ben moi, laisser pleurer, c'est pas du tout dans mes valeurs », puis qu'ils me demandent si on connaît une méthode, encore une fois, sans pleurs, ben non, c'est pas la méthode qui est sans pleurs. Les pleurs dépendent pas nécessairement de la méthode. Les pleurs dépendent de l'enfant, comment il apprécie la façon dont on l'accompagne vers le sommeil. Ou non. Donc, évidemment, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est plutôt d'essayer de répondre le plus rapidement possible aux besoins de l'enfant pour qu'il s'apaise de lui-même. Et à partir du moment où il va être apaisé de lui-même, bien, ses pleurs vont cesser parce qu'on va avoir répondu à son besoin. Donc, c'est simplement le moment de décoder les pleurs qui est parfois difficile, qui peut être plus long. Au début, on n'a pas beaucoup d'expérience comme parents. Et parfois, c'est plus difficile à décoder que d'autres. Puis bon, on gagne de l'expérience. Mais est-ce que c'est foutu si jamais mon enfant a pleuré pendant quelques minutes avant que je comprenne quel était son besoin? Est-ce que je l'ai bousillé? Ben pas du tout, parce qu'il voyait que vous étiez là en train d'essayer de l'aider, de l'accompagner. Ce que voulaient dire les gens qui ont décrié les méthodes, en fait, où on laissait pleurer, c'est que le parent n'était pas là. Le parent abandonnait l'enfant tout seul dans sa chambre et voulait le forcer à dormir en quelque sorte. Alors qu'on sait très bien que cette approche-là, c'est exactement le contraire que de vouloir créer une association favorable avec le sommeil. On va créer une association forcément défavorable parce que c'est un moment qui est très stressant, très angoissant, très agressant pour l'enfant que celui où on l'abandonne dans sa chambre, dans son lit, à ses pleurs, puis on ne veut plus revenir le voir parce qu'on veut le forcer à dormir. Donc, on fait pas ça, on fait pas ça du tout, en fait. Puis même, je dirais que dans la communauté des accompagnants au sommeil, je connais plus vraiment de gens qui vont préconiser ça. Ce qu'on fait, c'est toujours l'inverse. Avec l'Institut Somna, on en a parlé, c'est vraiment de répondre d'abord aux besoins de l'enfant. Et non, on va pas se culpabiliser si on n'a pas bien compris le besoin du premier coup. L'enfant est là, il voit qu'on est là, il voit qu'on est en train d'essayer de le décoder, qu'on veut l'accompagner, il se sent pas laissé à l'abandon comme dans l'autre situation. Alors, quand on parle du fait de ne jamais laisser pleurer, comme l'a dit si bien Madame Guéguen, eh bien, ce que l'on veut dire, c'est quand vous entendez des pleurs, vous retournez dans la chambre et vous allez essayer de décoder le plus rapidement possible le besoin de votre enfant pour y répondre et bien l'accompagner là-dedans. Et le plus souvent, il va avoir une bonne réponse à son besoin, le plus facilement la confiance, la relation de confiance avec le parent va se développer, mais aussi en lui. Et c'est vraiment une forme de conditionnement. On apprend par conditionnement. Donc, l'enfant va apprendre que, ah, je suis bon, j'ai réussi à exprimer mon besoin et quelqu'un m'a compris, donc je suis fière de moi. Et là, effectivement, ça lui permet de se développer normalement, ce qui ne serait pas le cas si on avait tout devancé ses besoins et on l'avait empêché de les exprimer par peur qu'il n'en vienne à pleurer. Alors, je tenais vraiment, vraiment à revenir là-dessus parce que c'est vraiment un malentendu généralisé, en tout cas du côté de la France, je dirais. Je pourrais pas dire que c'est dans l'ensemble de la francophonie, mais avec ces déclarations-là qui ont eu lieu en France, il y a eu vraiment un gros malentendu. Et effectivement, on est tout à fait d'accord avec ce que prône Catherine Guéguen, mais ça veut pas dire qu'un enfant n'a pas le droit de pleurer, pas du tout. Au contraire, votre rôle comme parent, c'est d'accueillir ses pleurs et de le guider graduellement vers une meilleure compréhension de lui-même, de ses émotions, tout ça, mais aussi de répondre à ses besoins, parce qu'à cet âge-là, il est complètement dépendant de vous. Donc non, on ne laisse jamais l'enfant tout seul dans son lit à s'égosiller désespérément parce qu'on veut le forcer à dormir. Donc ça, c'est sûr que c'est un non définitif. Et puis jamais, nous, de notre côté à l'Institut Somna, on a fait ce genre de choses, ni on l'a recommandé. Ceci étant dit, peut-être que vous l'avez fait. Est-ce que votre enfant est foutu? Non. Moi, j'embarquerai jamais dans ce genre de raisonnement. Mais ce qui peut arriver, c'est que certains enfants, effectivement, aient développé une association négative avec le sommeil ou une mauvaise estime d'eux-mêmes. Et là, il faut travailler là-dessus à ce moment-là. Donc voilà, j'espère donc que ça vous éclaire un peu par rapport à cette grande question. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Ça nous fait toujours plaisir à info@somna.ca. Et moi, il me fera un grand plaisir de vous retrouver très bientôt dans un prochain épisode d'SOS Sommeil. L'Institut Somna offre des formations et des consultations pour apprendre ou réapprendre à bien dormir naturellement à tout âge de la vie. Vu les besoins criants, nous avons récemment lancé 3 nouvelles certifications pour les personnes qui pourraient être intéressées à leur tour à devenir accompagnants au sommeil auprès des bébés, enfants, adolescents et ou des adultes. Pour toutes les informations, rendez-vous sur notre site somna.ca. Thank you.